La matinée, il est midi.
Comme il était inévitable, nous avons déjà traité de l'application des principes formulés ce matin, surtout dans l'entretien que nous avons eu, mais nous allons y revenir et nous concentrer cet après-midi sur ce vaste sujet. Vous avez plus d'expérience que moi, bien que tout particulièrement dans ma propre église étant co-responsable, je ne sois pas tout à fait dépourvu d'expérience. Vous avez plus d'expérience que moi, je pense, quant à cet exercice concret, appliqué de la discipline, et donc j'attends beaucoup de votre apport. J'ai prévu que nous fassions une lecture biblique pour introduire notre travail de cet après-midi, comme nous avons fait ce matin. C'est le passage de la deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 15, que je voudrais lire. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation afin qu'il en ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. La discipline comprend l'ensemble des mesures destinées à préserver, promouvoir l'ordre que Dieu a prescrit dans son Église, et en particulier les mesures qui sanctionneront les péchés les plus graves et grossiers. Il s'agit maintenant de voir pour nous plus précisément dans quel domaine cela va jouer et ce que nous pouvons appeler ces péchés graves et grossiers que j'ai évoqués dans la définition. Le premier trait qui me semble caractériser le domaine de la discipline, c'est qu'il s'agit de fautes visibles du domaine externe de la vie des membres de l'Église. Il y a un vieil adage qui déclare « De intimis non judicat ecclesia », l'Église ne juge pas de l'intériorité de chacun. Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Et aux hommes, aux responsables dans l'Église, il n'appartient pas de déterminer les motivations et de sanctionner les fautes peut-être très très graves qui restent cachées dans le secret du cœur. Ce caractère externe et visible est tout spécialement requis pour marquer les fautes qui doivent être censurées dans le cas de cette pointe de la discipline, de ce stade le plus dur qu'évoquait la définition de Classonia, celui des sanctions prises contre des transgresseurs. Lorsqu'il s'agit des admonestations diverses, on peut dire que c'est toute la vie dans sa visibilité, bien sûr, ce n'est jamais la pure infériorité du cœur, mais ce peut être le comportement tel qu'il manifeste les dispositions du cœur de manière assez générale. Il est, je pense, à la fois loisible et recommandable dans l'Église que des avertissements, que des paroles d'interpellation fraternelle soient dites à propos de choses qui ne sont pas des fautes très caractérisées, très très précises, mais à propos de façons de faire courantes qui semblent dénoter soit un refroidissement spirituel, soit un repli sur soi, soit un orgueil gênant, soit une insensibilité à autrui. L'interpellation fraternelle peut, à ce moment-là, donc toucher à des choses qui sont finalement assez intérieures, par le biais, bien sûr, de la manifestation visible. Mais lorsqu'il s'agit de la discipline dans ses formes les plus strictes et les plus lourdes, alors il faut vraiment que ce soit du pur externe, et les responsables de l'exercice de la discipline ne doivent pas prétendre sonder eux-mêmes les cœurs. Cela veut dire qu'il n'y a pas de proportion entre la gravité ultime aux yeux de Dieu des fautes et de leur susceptibilité à l'égard de la discipline, je veux dire, entre le fait donc de leur gravité aux yeux de Dieu et le fait qu'elles tombent sous la discipline de l'Église. Il n'y a pas à se scandaliser, comme parfois on entend certaines personnes se scandaliser, de ce que certaines fautes très graves aux yeux de Dieu ne soient pas disciplinées. Et non, c'est une limite de la discipline. Ce n'est pas en proportion de la gravité ultime aux yeux de Dieu, que nous ne pouvons pas mesurer, que les fautes sont censurées, mais selon leur visibilité et en raison de leurs conséquences pour les autres en particulier. Dans la visibilité même, dans le domaine externe, on peut distinguer entre le privé et le public. Il semble que la discipline vise premièrement les fautes publiques, et deuxièmement, les fautes privées seulement, les fautes privées venant sous la discipline, lorsque les personnes ne peuvent pas s'entendre en privé à leur égard. Nous avons lu Matthieu 18 ce matin, entre le frère et toi d'abord, tout seul, puis avec quelques témoins, et puis s'ils n'écoutent pas, alors là, porte-le devant l'Église, ça devient vraiment un cas de discipline au sens strict du terme. Les fautes privées venant plus tard que les fautes publiques devant l'instance disciplinaire. Alors je reconnais que la frontière est parfois difficile à tracer entre le public et le privé. Et que dans les temps bibliques, la zone du privé était à la fois plus restreinte et surtout beaucoup plus ouverte sur le public qu'aujourd'hui. Le mur que nous dressons n'existe sans doute pas. On vivait beaucoup plus sous le regard constant de ses voisins, de ses proches. Le public était moins anonyme et le privé était beaucoup moins replié sur le noyau de la cellule conjugale, de la famille au sens le plus étroit. Donc il y a là des difficultés pour l'application, mais je ne crois pas que je puisse en dire plus à cet égard. Faute dans quel domaine ? Runia, comme nous l'avons dit, distingue la foi et les mœurs, et je crois que c'est une division commode qu'il est juste de faire. Dans le pouvoir rabbinique de lier et délier, des questions de croyance, en particulier en matière de doctrine morale, comme je l'ai dit, et des questions de pratique directe, étaient combinées, mélangées. Et il me semble que nous pouvons dire que la discipline s'applique aux deux domaines qu'on peut distinguer, mais je dirai dans quelques instants qu'à mon avis, il ne faut surtout pas les séparer radicalement. La plupart des cas particuliers que nous montre le Nouveau Testament, mais pas tous, correspondent à des écarts dans le domaine moral. Le mensonge d'Ananias, déjà, l'incestueux de Corinthe, tout particulièrement, celui qui vit dans le désordre, apparemment c'est une façon de vivre, façon de Picassiette, façon dont les composantes sont essentiellement des composantes morales, éthiques. Il est possible que cette vie dans le désordre ait été liée à certaines spéculations sur la fin des temps, sur l'imminence du retour de Jésus. Ce n'est pas tout à fait exclu que des gens aient abandonné leur travail en se disant de toute façon le Seigneur revient dans très peu de temps. Il est tout proche, donc pas la peine de travailler. Mais même s'il y avait une erreur doctrinale ou une erreur d'interprétation sous-jacente, c'est quand même d'abord un problème de comportement, et c'est comme tel qu'il est soumis à discipline par l'apôtre Paul. Dans 2 Thessaloniciens 3, le texte donc, que nous avons lu au début de cet après-midi, exposé cet après-midi, il n'est pas absolument sûr que la parole de l'apôtre, si quelqu'un n'obéit pas au terme de cette lettre, notez-le, etc., s'applique seulement au cas du frère désordonné qui ne veut pas travailler, etc., des versets précédents. Parce que ça pourrait avoir en tout cas une portée très très générale au terme de cette lettre, pas seulement du paragraphe précédent, mais de tout ce qui vient avant. Cependant, en général, on pense que Paul a surtout à l'esprit le cas qu'il vient d'évoquer. Le cas de ces gens un peu agités, mais qui vivent aux dépens des autres. N'édifie pas vraiment la communauté. En ce qui concerne les exemples de comportements que j'ai évoqués ce matin, de l'ordre de la cupidité par exemple, de l'ordre de la dureté, certaines idolâtries de soi peut-être, etc. Je confesse que je ne vois pas d'exemple très net de discipline dans le Nouveau Testament. On pourrait même citer, à contrario, me semble-t-il, le cas de Philémon, l'épître à Philémon, où l'apôtre peut-être aurait pu dire, au titre de la discipline fraternelle, j'exige que tu accueilles Onésime, qu'il ait telle et telle place, etc. C'est honteux qu'un patron chrétien garde un esclave et le traite sévèrement s'il revient après s'être enfui. Et Paul ne le fait pas. Il agit avec énormément de prudence, de réserve, de doigté, bien que je crois que ce doigté, il faille le lui reconnaître, étant donné les mœurs du temps et les façons de parler du temps. Je trouve que si on écrivait aujourd'hui une lettre comme celle-là, on aurait l'impression d'une certaine lourdeur. Je ne te commande pas, mais je peux te commander, etc. Il le lui répète plusieurs fois, donc ça pourrait paraître un peu lourd. Mais je pense qu'à l'époque, là je me réfère à l'avis des commentateurs, c'était une façon de parler qui n'avait pas cette connotation qui serait là pour nous, et qui manifestait réellement de la délicatesse, de la réserve de la part de l'apôtre envers un homme qui, dans le Seigneur, lui devait tout. Il est bon de tout à l'apôtre Paul, le suggère assez nettement. Mais enfin, bon, Paul ne place pas cela sur le plan de la discipline, pour ce patron chrétien. Et le cas de Diotrephe, dans la troisième de Jean, c'est aussi intéressant à noter. Là, c'est un comportement de responsable, un comportement autoritaire, arrogant, et qui exclut ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Un comportement de tyranneau et de sacristie, si j'ose dire. Et apparemment, Jean l'Ancien, qui écrit, et qui certainement écrit avec autorité, ne parle pas de mesures disciplinaires précises. Ici, Bien qu'il dise au verset 10, c'est pourquoi si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet. Alors, est-ce que ça veut dire une certaine procédure disciplinaire? Difficile de savoir exactement ce qui se cache sous ces mots, je rappellerai les actes qu'il commet. Certains historiens, mais en général ce sont plutôt des historiens libéraux critiques, ont envisagé que Diotrephe ait pu être l'un des premiers évêques monarchiques, évêques prenant le pouvoir et se distinguant des autres anciens. Vous savez que c'est une énigme historique, que cette transition dans le Nouveau Testament, il semble clair, qu'on appelle évêque aussi les anciens, ou au mieux, ou plus dans l'épître pastorale, peut-être celui qui préside le conseil des anciens, mais qui est un ancien parmi les autres. Et puis, par la suite, l'évêque s'élève au-dessus des anciens. Les presbytres, mot devenant plus tard celui de prêtre. Nous avons deux degrés qui se distinguent. Et cela apparaît déjà très clairement à Antioche, avec Ignace d'Antioche au début du IIe siècle, qui fait une très forte distinction entre l'évêque, qui détient toute autorité, et puis les anciens qui sont sous ses ordres.
Est-ce que Jacques n'a pas aussi une position prééminente à Jérusalem? Il est tout le temps avec les apôtres et les autres anciens, on n'entend jamais parler.
Mais oui. C'est vrai que le cas de Jacques, mais il est tellement à part comme frère du Seigneur qu'on se demande un petit peu quel commentaire en faire. Mais c'est vrai que là, nous avons une autorité attachée à une personne qui semble l'élever nettement au-dessus des anciens de l'église de Jérusalem. Les anciens se réunissent en acte 15, vous vous rappelez, mais Jacques, manifestement, a une prééminence là. Évidemment, c'est le frère du Seigneur. Et ça a pesé.
Mais une valeur théologique, c'est pas une valeur spirituelle.
Il semble quand même que le fait qu'il ait été frère du Seigneur ait pesé dans le rôle qu'il a eu. Moi, je crois que cela ressort du fait même qu'il est appelé de cette façon. Et je ne sais pas très bien comment l'évaluer, le juger. Je serais tenté, comme vous, de dire le lien selon la chair ne devrait pas lui donner une autorité particulière dans l'Église, qui est la famille spirituelle. Et Jésus lui-même a assez clairement dit que ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu la garde. Mais il semble quand même qu'il ait eu aussi les dons voulus et qu'il ait reçu, avec un accent sur le fait qu'il était frère du Seigneur, une autorité particulière à Jérusalem. Je suis d'accord pour penser qu'il y a comme une zone de flou en ce qui concerne ce rôle exact de Jacques dans l'église de Jérusalem. Selon le témoignage du livre des Actes, de l'Épître aux Galates. Donc, écart quant à la conduite de diverses sortes, en dehors de la fraude d'Ananias qui a un caractère financier, de ce comportement général du genre peut-être un peu des hippies, de ces frères vivant dans le désordre de Thessalonique, nous avons donc des cas où il ne semble pas que la discipline ait été exercée, mais enfin nous ne pouvons pas en dire trop à ce propos. Quant à la deuxième catégorie, nous avons un certain nombre de textes. Les enseignements contraires à la tradition apostolique, c'est-à-dire au dépôt, à ce qui est transmis, hein, c'est ça ce que veut dire le mot de tradition, Paul l'emploie dans la seconde aux Thessaloniciens. Nous avons des preuves que des enseignements contraires à ce dépôt, au modèle doctrinal, des saines paroles, réclamaient une action énergique. Ce matin, nous avons vu déjà un certain nombre de passages. Le plus programmatique, le plus large, me semble-t-il, c'est celui de Romains 16, 17. Mais nous en avons vu d'autres dans le pastoral, dans les épîtres de Jean ou les lettres de l'Apocalypse. Je signale encore un texte qui est très fort, qu'on ne remarque peut-être pas assez. Paul s'indigne de la mansuétude à l'égard de faux docteurs dont font preuve les Corinthiens, enfin, seconde aux Corinthiens, au chapitre 11. Verset 4, si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Paul s'indigne que les écarts à ce propos, et c'est très intéressant d'avoir cette triade d'équivalence, Jésus, esprit, évangile, Paul s'indigne qu'il y ait une tolérance si large à cet égard parmi les Corinthiens. Aux apôtres sont présentés, en s'autorisant peut-être du nom de Jacques d'ailleurs, un message que Paul juge profondément autre que celui qu'il a lui-même fait entendre aux Corinthiens. Tout le problème, non, c'est pas tout, le problème de ces écarts doctrinaux me semble être celui de la juste mesure. À partir de quel moment est-ce un autre Jésus? Est-ce un autre évangile? Est-ce un autre esprit? Il me semble très clair que l'apôtre, en même temps, est prêt à distinguer entre des degrés d'importance et à considérer que certaines vérités, sans être indifférentes, ne justifient pas la séparation, l'application d'une telle doctrine. J'ai évoqué brièvement ce matin le passage qui me semble le plus impressionnant à cet égard, c'est celui de Philippiens 3, Philippiens 3, 15 et suivant. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelque point vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Marchons de la même pas. Là, l'apôtre Paul me semble très clairement montrer qu'il distingue, trace une frontière, au point où nous sommes parvenus. Pas quelque chose qu'on puisse laisser comme ça de côté, non, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Il a l'espoir que ses correspondants corrigeront leur vision des choses, mais il juge qu'il faut tolérer cette divergence même, qu'elle ne doit pas empêcher la bonne collaboration. Le haut point où nous sommes parvenus marque bien qu'on peut tracer une frontière entre questions essentielles sur lesquelles il ne sera pas possible de transiger et d'autres points sur lesquels, assez tristement, on aimerait mieux être d'accord à 100%, mais on acceptera de demeurer en désaccord tout en continuant de travailler ensemble. Alors, quelles sont les questions sur lesquelles il est nécessaire et légitime de se séparer, et quelles sont les questions sur lesquelles ce n'est pas possible? La grande difficulté, c'est de trouver des critères objectifs. Nous n'avons pas une réponse toute faite à cette interrogation dans le Nouveau Testament. Et en un sens, ce n'était pas nécessaire dans la mesure où les apôtres étaient là, présents, pouvant eux-mêmes déclarer ce qui était à leurs yeux non négociable et ce qui pouvait être toléré dans la diversité. D'ailleurs, les désaccords avec les apôtres avaient un caractère plus dramatique quand ils étaient là présents, parce que ça devenait très vite de la révolte ouverte, caractère que les désaccords n'ont plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui sont très sincères, soucieux de se soumettre aux apôtres, qui nous paraissent en désaccord avec eux, donc ils désobéissent objectivement aux apôtres. Mais ils ne se rendent pas compte de qu'ils le font. Et donc leur écart n'a pas la même intensité dramatique que la rébellion d'un homme au temps, même du Nouveau Testament, qui se dressait face à Paul. Donc, vraiment question délicate à traiter, pour laquelle nous n'avons pas de recette. Je crois que nous pouvons essayer de mettre en œuvre un certain nombre de critères objectifs. Et je propose les critères suivants. Je l'ai fait déjà au congrès de Lausanne en 1974. J'avais eu à parler sur notre unité selon l'écriture. J'avais suggéré qu'on mette en œuvre une batterie de critères. Il y a le critère de la place dans l'écriture. Si un sujet revient très souvent, nous voyons les apôtres y insister, il y a lieu de penser que c'est un sujet important. En revanche, quelque chose qui n'est vraiment attaché qu'à un ou deux passages, avec donc des interprétations divergentes, on peut supposer, c'est pas absolument évident, mais on peut supposer que la question appartient quand même à un domaine secondaire.
Mais est-ce que vous pouvez dire que l'abondance de l'écriture est liée à l'importance? Parce que certaines grandes vérités sont annoncées très peu de fois.
Oui,
je pense à Christ intercesseur, c'est qui deux ou trois fois, mais c'est pas forcément lié.
Bon. Il y a aussi peu de place pour cette doctrine, j'essaie de réfléchir. Là, dans l'Épître aux Hébreux, c'est quand même un assez gros morceau globalement. Jean 17, Jean 1, mais disons que je suis tout à fait d'accord pour dire qu'aucun de ces critères utilisés isolément ne suffira à nous donner une mesure fiable. C'est en essayant de les combiner que nous avons l'espoir d'arriver à un jugement qui ne soit pas trop subjectif. Que cette subjectivité soit celle de notre sentiment personnel, quelque chose nous semble important à nous, ou qu'elle soit celle de notre tradition particulière, de notre milieu d'origine, de ce qui nous a été inculqué dans nos premiers réflexes chrétiens. Mais disons, à mon avis, bien qu'imparfait, ce critère de la place prise dans l'écriture peut nous être utile. Deuxième critère, celui du rapport logique au reste des vérités révélées, ce que le théologien va essayer de mettre en valeur. Il y a des vérités qui sont comme au cœur de tout l'organisme de la vérité révélée. Si vous niez ça, finalement, à la suite, vous allez logiquement, au moins, nier tout le reste. Même si beaucoup de gens ne suivent pas cette logique, il y a un très gros danger, et ça donne de l'importance à ce point doctrinal. Je crois que la question de la circoncision en Galatie, quand Paul écrit, il la présente justement comme telle. Si vous ajoutez la circoncision, Christ est mort en vain. Oui. Vous êtes déchu de la grâce. Vous avez adopté un tout autre système. Il faut comprendre la logique de l'ensemble de la doctrine du salut qu'apporte l'Évangile. C'est ou bien par les œuvres, ou bien sans les œuvres. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Si vous exigez une œuvre pour être agréé de Dieu, alors vous avez, dans le principe, ruiné toute la doctrine de la croix. Voilà la manière dont Paul argumente dans l'Épître aux Galates, et il donne là donc une importance à cette question qu'on aurait pu traiter comme une question secondaire et marginale, ou un rite de plus ou de moins, mais à cause de sa position stratégique dans la logique du développement, une logique qui n'est pas une logique toujours très formelle, une logique vivante du développement de la vérité révélée. Donc on peut chercher quel est, je dirais, le retentissement de l'affirmation ou de la négation sur le point qui est en cause, quel est le retentissement dans tout l'organisme de la vérité révélée, pour savoir si c'est un point très important ou non. Il me semble, par exemple, que certains points d'ecclésiologie, ou concernant les sacrements, sont tels qu'heureusement, il n'y a pas de retentissement trop prodigieux dans l'ensemble de la vérité révélée, de telle sorte que la collaboration restera possible. Je pense tout spécialement, très précisément, vous savez que je suis baptiste, et j'ai avec conviction, à la question du baptême des enfants, et du baptême sur confession de foi, dans notre différence avec des réformés évangéliques.
Moi, j'ai collaboré, vous le savez, bien des années avec Pierre Courtial et Harry de Védrine dans l'entreprise Dictus. Nous n'étions pas d'accord sur ce point précis. Mais je dis que, bien heureusement, ça n'a pas trop de retentissement ailleurs. Que nous pouvons être en gros d'accord sur l'organisme de la vérité révélée, tout en étant en désaccord à cet endroit-là. Donc, ce qui, je dirais, au moins limite les dégâts, et fait que nous pourrons dire, pour la collaboration, à mon avis pas pour l'appartenance à une même église, bien que qu'il y ait des évangéliques qui ne soient pas d'accord sur ce point avec moi, mais pour l'appartenance à une même église, je crois qu'il faut être d'accord sur la question du baptême, mais un désaccord n'empêchera pas de marcher ensemble dans beaucoup de collaborations. Vous voyez ce que j'entends par l'usage de ce critère, qui est le critère de son importance logique par rapport à l'ensemble de la vérité révélée. On peut y joindre tout de suite le critère de l'importance pratique. Quel effet cela a-t-il sur la pratique de la vie chrétienne, de l'évangélisation, Bien sûr, tout a toujours un effet quelque part, mais il s'agit de le savoir si c'est quelque chose de bien net, avec un lien de nécessité assez direct. Je pense que c'est un argument pour, là je m'expose à nouveau, un argument pour minimiser l'importance de certains différents en eschatologie, la doctrine des choses de la fin, je pense en particulier sur le millénium, que les conséquences pratiques sont extrêmement limitées entre chrétiens évangéliques, bien sûr, nous restons entre chrétiens évangéliques à cet endroit, qu'on soit prémillénariste ou amillénariste, les conséquences ne sont pas si considérables. Donc, même si le sujet peut enflammer les esprits, je pense que c'est une raison pour considérer que là-dessus, on pourra tolérer des différences, sans que cela nuise à la communion fraternelle et à la collaboration. Critère donc de l'importance pratique. Et enfin, critère de l'importance dans l'histoire, et jusqu'à nos jours. Nous ne croyons pas plus sages que nos pères. Un sujet qui a été considéré comme très important, justifiant qu'on se sépare par des générations et des générations d'hommes de Dieu qu'il a manifestement conduit, béni, etc. Il y a bien des chances que ce soit un sujet réellement important. Ils ont pu se tromper, oui, d'accord, malgré la bénédiction de Dieu, nous savons que c'est possible. Mystérieusement, Dieu tolère des écarts considérables chez ceux-mêmes qui continuent de bénir. Mais enfin, en revanche, si eux ont considéré qu'on pouvait très bien passer sur une différence donnée, en faire, nous, un chibolette pour la communion et la collaboration, je crois que c'est très présomptueux. Il y a peu de chances que nous soyons là dans l'axe voulu, que ce soit la sagesse selon Dieu. Les leçons de l'histoire, et avec un débouché jusqu'à nos jours, je crois qu'on peut dire que lorsque la communauté évangélique mondiale considère qu'un sujet très important, que tous, pratiquement, c'est jamais du 100%, même, il y a toujours des bizarreries, des parapluies, mais presque tous les responsables suffisamment instruits sont d'accord sur un point dans la communauté évangélique. Nous avons à considérer que c'est un point à retenir, sur lequel il ne faut pas lâcher. En revanche, un point sur lequel il y a deux grandes divisions, une grande diversité d'opinions, il y a des chances pour que ce soit un point que Dieu n'ait pas voulu révéler avec une insistance telle que nul ne pouvait s'y tromper et que ce ne soit pas un point de tout premier rang. Vous voyez quelles sortes de critères peuvent être mis en œuvre. Alors, s'il y a deux ou trois critères qui disent importants et puis deux ou trois critères qui disent peu importants, là, ce sera très difficile de se trancher. Et si tous les critères disent peu importants, alors je crois que la chose sera assez vite conclue et que nous pourrons là déterminer ce qui, dans la discipline doctrinale, doit être prise en compte et justifiée des degrés de séparation. je signale que la fonction d'une confession de foi, c'est précisément de une confession de foi ecclésiastique, c'est de tracer la limite entre ce qui est assez tellement important qu'il vaut la peine pour honorer le nom de Dieu, de se séparer de ceux qui ne sont pas d'accord, et puis de ce qui doit être toléré à l'intérieur de la communauté. C'est là ce qui est la fonction normale d'une confession de foi. Et même les groupes qui n'ont pas de confession de foi écrite en ont une un peu plus floue à l'arrière de leur esprit souvent. Normalement, on met dans une confession de foi ce que tous devront confesser pour être de cette église, et s'ils ne le font pas, ils ne peuvent pas être de cette église. C'est la logique. Donc ça trace la frontière. Et ce qui n'est pas dans la confession de foi, c'est sur ce quoi on doit pouvoir tolérer des opinions différentes. Un des problèmes, c'est que les confessions de foi sont souvent relativement anciennes, et des questions nouvelles surgissent sur lesquelles on débat, et là les confessions de foi ne prévoient pas, et pourtant ça prend parfois beaucoup d'importance pratique. Alors ça, c'est une difficulté qui se présente. Je voudrais conclure sur cette question des domaines, que je ne traîne pas trop, en soulignant ce que j'ai déjà énoncé tout à l'heure, qu'entre la pratique et la doctrine, nous ne pouvons pas faire de séparation si nous voulons rester bibliques. Certaines personnes sont très choquées par l'idée d'une discipline doctrinale aujourd'hui, avec le climat de tolérance, et considèrent que discipline, oui, bien sûr, mais seulement pour des infractions morales. Un comportement qui montre un manque d'amour, l'injustice, etc. Mais la doctrine, non. En particulier, pas de séparation. Ne pas se séparer au nom de la doctrine, on l'exclut. Il me semble que ce n'est pas là honorer les termes du Nouveau Testament, qui prévoit cette séparation de Romains 16 en particulier. Là, pour des sujets qui sont de type doctrinal assez manifestement. Mais de toute façon, la séparation entre question de doctrine et question de pratique n'est pas possible. C'est une concrétisation de l'obéissance au Seigneur que la confession de la droite doctrine. Ça fait partie du champ de la sanctification. Ça fait partie de ce qui est dû au Seigneur comme Seigneur, que ce qu'il a dit soit respecté et redit correctement. Nous conduisons nos pensées, c'est une conduite. Il y a une activité responsable qui s'exerce. Et de l'autre côté, d'ailleurs, les questions de comportement sont très très profondément marquées par les perspectives doctrinales, même très générales, que nous admettons. Dans le champ biblique, je crois qu'on ne peut pas séparer en dernière analyse l'obéissance, l'amour de Dieu de toute la pensée, et l'amour de Dieu dans tout la conduite, dans l'action, ou l'omission aussi d'ailleurs. Voilà en ce qui concerne les domaines, les remarques que j'aurais à faire, et maintenant les moyens de cette discipline ecclésiastique. Négativement d'abord, ce sont des moyens strictement relatifs à la communion fraternelle. Comme dit Calvin, malgré ce qu'il retenait du système de l'Ancien Testament quant au droit des magistrats de punir les hérétiques, comme le dit Calvin, les moyens de la discipline ecclésiastique sont totalement séparés du glaive et de la puissance terrienne. Il est intéressant que même un Calvin donc ait pu aller jusqu'à dire cela. La réforme magistérielle n'a pas vraiment respecté ce principe. Vous aviez le rôle des princes considérés comme frères aînés dans l'Église, mais cela me paraît bien biblique pourtant. Effectivement, dans l'Église, s'il y a des princes, ils sont des frères au même rang que les autres, Et comme Jacques, au chapitre 2, qui combat l'acceptation de personne, le montre, ils n'ont aucun droit quant à la discipline qui l'emporte sur celui des frères les plus humbles socialement. Les moyens de la discipline ne doivent rien avoir à faire avec les instruments de coercition sociale qui sont remis aux magistrats. Il faut souligner que ce n'est pas si facile dans la pratique toujours. Pour nous, je pense que ça ne fait pas un grand problème parce que nous sommes de si faibles minorités et que notre impact social n'est pas grand. Mais imaginez une situation comme il en existe, où les chrétiens évangéliques et professants sont presque la majorité de la population, ils sont la majorité de la population, comme au sud des États-Unis, dans le Bible Belt. Il peut y avoir des conséquences sociales très considérables, économiques, d'une mise sous discipline purement ecclésiastique. Et à ce moment-là, alors, on transgresse cette règle. La pression n'est plus simplement une pression de type spirituel relative à la communion d'église, ça devient une sanction comme celle que les magistrats peuvent afficher. Si, par exemple, dans un village où on est baptiste à 80%, ça existe. Le boulanger est mis sous discipline et plus personne, il y a deux ou trois boulangers, il y en a un donc il est mis sous discipline, tout le monde va chez l'autre, tous les baptistes vont chez l'autre, et bien, le premier fait faillite, c'est une punition de critique sociale. Donc il n'est pas si facile de préserver toujours cette distinction entre la puissance terrienne et les moyens. Mais enfin, pour nous, le problème, je crois, ne se pose malheureusement pas de manière si brûlante. Positivement, les moyens commencent avec les exhortations, avertissements qu'il faut multiplier. Type 3, le verset que nous avons lu ce matin, le dit clairement. Il continue avec la répréhension publique et va jusqu'à l'exclusion, qu'on appelle traditionnellement excommunication, de la médecine à la chirurgie, comme dit le Lubercoff. Alors, les admonestations devraient être le moyen le plus fréquent et le plus efficace dans les perspectives de la fin de la discipline. C'est ce qui est le plus précieux. Et là, je vous passe une illustration du dogmaticien Baptiste Strong. Il y a beaucoup d'illustrations dans sa théologie systématique. Il cite le cas du garçonnet qui ne comprenait pas qu'on puisse se peigner tous les jours. Lui, il se peignait une fois tous les deux mois. Et c'était tellement pénible que vraiment tous les jours, non, pas possible. Les admonestations, c'est comme tout le pain tous les jours, ça passe en douceur. Si on n'en use pas, alors les choses s'en mêlent et ça devient très difficile à résoudre et beaucoup plus douloureux. Voilà la portée de cette illustration. Dans le cas des affaires privées, et donc la procédure de Matthieu 18. Dans le cas des affaires privées, et donc la procédure de Matthieu 18. Dans le cas des affaires privées, et donc la procédure de Matthieu 18 est très claire, il y a un premier stade seul à seul, face à face, et un deuxième stade avec des témoins, deux ou trois, comme le prévoyait la loi de l'Ancien Testament, et c'est la sagesse. Et ensuite, la chose vient devant l'Église, avec deux degrés d'excommunication possibles. On parle classiquement d'excommunication mineure et d'excommunication majeure. L'excommunication mineure, c'est l'interdiction de prendre la scène, mais sans publicité, et après des avertissements publics qui suivent. Le premier sans nommer, le deuxième en nommant, le troisième avec une excommunication majeure qui peut être ensuite annoncée. Mais l'excommunication mineure, donc, c'est essentiellement la privation de la Sainte Cène. Il est à signaler qu'un leader évangélique bien connu dans nos pays s'oppose à l'idée que la discipline utilise l'excommunication mineure, la privation de la Cène. Monsieur George Winston, qui a été très actif dans la mission évangélique belge, qui a été le directeur de l'Institut biblique belge pendant longtemps, et qui est maintenant directeur d'une nouvelle institution qu'il a fondée, un séminaire à Bruxelles. Monsieur George Winston, originalité de sa doctrine, mais considère que la discipline ne devrait pas priver de la Cène, avec cette idée que c'est un moyen de grâce. Je pense que c'est son idée, que, en tout cas rien n'est dit clairement dans l'Écriture, et que c'est un moyen de grâce, donc il ne faut pas priver celui qui a justement besoin de la grâce. Alors, quelle position adopter à ce propos d'excommunication mineure? Personnellement, il me semble difficile de refuser la thèse classique qui considère que c'est une sanction appropriée en cas d'indiscipline, lorsque la discipline doit sanctionner. Il me semble que la scène n'est pas vue dans l'Écriture d'abord comme moyen de grâce, et en particulier pour quelqu'un qui est un pénitent dans une conduite répréhensible, mais que c'est d'abord l'expression de la communion fraternelle. Et c'est là sa fonction première, c'est l'expression de la communion fraternelle rapportée au sacrifice du Seigneur qui crée la communion fraternelle surnaturelle tout entre les membres de l'Église. Et lorsqu'il y a mise sous discipline, il me semble qu'il y a comme contradiction, dissonance en tout cas, entre ce qui est proclamé dans le signe, nous sommes un par dans la communion du sang de Jésus-Christ, et puis ce qui est la réalité, si la communion effectivement est endommagée par le comportement de celui qui doit être mis sous discipline. Dans 1 Corinthiens 5, alors je suis d'accord qu'il s'agit peut-être plutôt de la communication majeure, du degré suivant, mais nous avons remarqué ce matin que Paul dit bien qu'il ne faut plus manger avec ses débouchés, cupides, idolâtres, etc., ceux qui sont à soumettre à la discipline. Il exclut de manger. Alors s'il exclut de manger en général, je dirais, à combien plus forte raison, manger le repas symbolique qui est destiné à exprimer avec grande intensité que tous les membres de l'Église sont en communion les uns avec les autres. Donc, contrairement à l'avis de M. George Winston, mais évidemment il n'est pas là pour plaider la cause de sa thèse, contrairement à son avis, je crois qu'il y a place pour ce qu'on appelle l'excommunication mineure. L'excommunication majeure étant la rupture complète des relations, de telle sorte que l'autre est comme un païen et un publicain, un païen et un péager, comme un non-membre, d'après le langage de Matthieu 18. Ainsi que je l'ai dit ce matin, l'expression livrée à Satan, avec plusieurs commentateurs, me semble pouvoir avoir ce sens en 1 Corinthiens 5 et sans doute aussi en 1 Timothée 1. L'idée d'une gradation entre ces divers types de disciplines me semble fondée tout spécialement par ce que dit l'apôtre à la fin de 2 Thessaloniciens 3 que nous avons lu. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Il me semble que nous avons là une règle, ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Alors une règle qui montre qu'il y a un certain dosage, que dans l'intention médicinale et pédagogique de la discipline, nous avons à tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction, qu'il y a certains stades où il s'agit d'une rupture totale de relation, semble-t-il sans espoir même de retour, en tout cas on laisse ça à Dieu, ceux qui commettent le péché à la mort. Dans certains cas, il doit y avoir une rupture complète, totale, ne plus manger avec lui, mais il y a l'espoir que il est quand même considéré encore comme quelqu'un qui sera sauvé le jour du Seigneur Jésus, dans 5, et on pense que les mesures mêmes pourront lui permettre de se repentir, ce qui semble avoir été le cas à Corinthe, d'après 2 Corinthiens 2. Et puis dans certains cas où la faute est quand même moins grave, comme celui de ces chrétiens que j'ai comparé aux hippies tout à l'heure, il y a une mesure de quarantaine à prendre pour qu'il éprouve de la honte, mais le rapport reste quand même un rapport fraternel. On l'avertit comme un frère. C'est bien que c'est comme tel qu'il est averti dans ces mesures de distanciation, pourrait-on dire. Il me semble que là, nous avons le principe d'une gradation. Alors, qui en décide ? Responsable de la discipline, nous en avons parlé un peu ce matin. Dans le Nouveau Testament, les apôtres agissent dans nombre de cas. Pierre reçoit les clés en Matthieu 16, et en acte 5, avec Ananias et Saphira, c'est lui qui intervient, directement semble-t-il. Paul semble user de son pouvoir, il parle de venir dans un esprit de douceur, sans ménagement, d'utiliser la verge. Donc, là, Paul semble manifestement agir. Quand il n'y a pas d'apôtre, il semble logique que ceux qui dirigent, qui sont titulaires des dons de gouvernement dans l'Église, soient aussi ceux qui administrent la discipline. Mais cela n'est pas dit de manière si claire et si nette. Et ce qui équilibre, ce qui paraît la conséquence logique de l'existence de gouvernement. Or, le gouvernement doit juger les cas de désordre qui se produisent dans le troupeau dont il a la charge. C'est le berger qui règle les comptes entre les brebis, etc. Donc, ce qui paraît être la logique de l'existence même du gouvernement est contrebalancé par la mise en valeur de la responsabilité communautaire. C'est ce que j'ai évoqué ce matin. Matthieu 18 parle de l'Église, dit-le à l'Église. S'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un panier. Apparemment, c'est toute l'Église qui est constituée en instance de décision. Dans les épîtres aux Thessaloniciens, les exhortations sont aussi adressées à tous. Tous les membres, apparemment, doivent noter, avertir comme un frère celui qui vit dans le désordre. Et dans la première aux Corinthiens, c'est peut-être plus frappant encore. Dans 1 Corinthiens 5, Paul dit bien qu'il a déjà jugé, mais ce n'est pas tout seul qu'il estime prendre cette décision. C'est son esprit avec les Corinthiens, en assemblée. C'est surtout au verset 4 que c'est particulièrement clair. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Donc c'est vraiment une affaire qui semble être une affaire d'assemblée. Ce qui me semble impliquer la conclusion suivante. J'essaie de faire droit à la fois à l'existence des gouvernements et à cet accent sur la responsabilité de l'Église. Il me semble que c'est le corps comme tel qui est responsable de l'administration de la discipline. La métaphore du corps a beaucoup d'avantages. Ce n'est pas un régime de démocratie. Quelqu'un, je crois, déjà l'a mis en valeur ce matin. Il ne s'agit pas d'un droit d'assemblée avec la majorité qui décide. C'est le corps Or, le corps fonctionne grâce aux articulations et aux liens, aux jointures nourricières dont parle Éphésiens 4, que sont les ministères. Les ministères spécialisés font jouer le corps. C'est leur rôle. D'ailleurs, on peut se rappeler que dans ce texte d'Éphésiens 4, le mot ministère est employé pour tous les saints, en fait, mais que les pasteurs et docteurs, ces ministres de l'église locale qui sont ici en pause, sont, eux, donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service ou ministère et d'éducation du corps du Christ. C'est le ministère de tous les saints qui est rendu possible dans son fonctionnement harmonieux par les ministères spécialisés, par ces offices munis d'autorité que Dieu a institués. Et je suggère que la discipline doit être le fait du corps en tant qu'il fonctionne autour des ministères spécialisés grâce à eux, donc de telle sorte que joue dans les décisions d'une manière privilégiée les responsabilités des anciens, de ceux qui ont les ministères de gouvernement en particulier. Les docteurs aussi, s'ils s'en distinguent, parce que certaines distinctions peuvent être admises, les prophètes, il me semble que c'est là une réponse sage selon l'Écriture. Au bout du compte, c'est la responsabilité du corps de l'Église. Mais ce corps n'est pas une simple addition d'individus, c'est un tout vivant structuré où les ministères doivent jouer à plein. La présence des apôtres empêche de tirer du Nouveau Testament des enseignements clairs sur un échelon supralocal de discipline. Et oui, dans le Nouveau Testament, il y a des apôtres qui ont manifestement une fonction d'autorité quant à l'Église universelle. Seulement, les apôtres n'ont pas de successeur en cette capacité. Et du coup, qu'en est-il une fois que les apôtres disparaissent? Il y a une certaine continuation de leur ministère dans le rôle des anciens dans toutes les églises et de tous les prédicateurs de la parole, mais en ce qui concerne une espèce de juridiction sur l'ensemble des églises, nous n'avons pas de données claires dans le Nouveau Testament, me semble-t-il, quant à ce qui remplace les apôtres. La tradition congrégationaliste à laquelle j'appartiens souligne, peut-être parfois un peu à l'excès, la souveraineté de l'Église locale, sous celle du Seigneur, bien sûr, par rapport à toute instance. Autres. Mais il semble aussi très clair que dans la pratique, les nécessités font que cela est reconnu de fait. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des personnes douées d'une très grande autorité spirituelle qu'on appelle à titre de juge, d'arbitre, pour dénouer des situations très très difficiles entre églises, ou quand l'église locale n'est pas capable de s'en débrouiller toute seule. Je pense qu'on peut dire que de fait, nous constatons que Dieu suscite des ministères qui couvrent une pluralité d'églises locales, mais il ne semble pas qu'on puisse dire que ce soit clairement institué, défini dans le Nouveau Testament, malgré l'intérêt de l'affaire. Alors, j'ai pensé en dernier lieu à des illustrations, mais je crois que ce ne sera guère la peine pour nous faire parler. Mais je vous les signale en évoquant, mais alors très très brièvement, les orientations qui pourraient être les miennes. Des illustrations tout à fait courantes, hélas, pourrait-on dire, pour l'application de la discipline. Premier cas, un ancien convaincu d'adultère, l'ancien d'une église, convaincu d'adultère, mais se disant repentant et pardonné par Dieu. Et sa femme ne désire aucune publicité. Sa femme qui lui a pardonné, qui lui aura pardonné. Voilà. Une situation qui se rencontre certainement. Que faire? Comment agir dans la discipline? Bon, je suggère que il y a toujours le jugement de charité qui doit prévaloir, qui sauf indication claire du contraire, doit présupposer la sincérité de celui qui déclare se repentir. Donc, il faut considérer que si cet homme déclare qu'il s'est repenti, qu'il a commis un péché, mais que maintenant il s'en détourne, et qu'il a reçu le pardon de la grâce divine, il faut s'en tenir là et ne pas avoir d'action disciplinaire au sens strict contre lui. En revanche, il me semble qu'il est difficile qu'il reste dans sa charge d'ancien, étant donné la fragilité qu'il a montrée au plan spirituel. Ce n'est pas une sanction, mais c'est quelque chose qui est lié aux exigences pour l'ancien. Il me semble que pour rester ancien, il faut logiquement satisfaire aux mêmes exigences que pour le devenir. Or, il est clair, d'après 1 Timothée, chapitre 3, qu'il n'est plus là dans une situation satisfaisante. Il faut au minimum un temps d'épreuve pour que la consolidation de son foyer, de son obéissance personnelle, soit assurée. Alors, étant donné son rôle public d'ancien et la possibilité que tout transpire après même un certain temps, à cause d'un Timothée 5:20 dont nous avons parlé ce matin, je dirais qu'en principe, quelque chose de public à ce propos ne serait pas déplacé, pourrait être opportun, mais qu'à mon avis, si sa femme, la personne lésée en premier lieu, ne souhaite pas cette publicité, ce vœu doit primer. Et donc, qu'il n'y a pas lieu de donner à cela de la publicité. C'est-à-dire d'expliquer ouvertement à l'Église pourquoi il cesse d'être ancien pendant un certain temps. Voilà, c'est très brièvement dit, quelques lignes que je suggère, voilà comment, face à un tel problème, je n'ai pas eu à le traiter jusqu'à présent, hein, comme ancien dans mon Église, par exemple, je n'ai pas eu à m'en occuper, mais je vous indique la manière dont je crois qu'on pourrait prendre le sujet. Deuxième problème, un jeune membre de l'Église, un étudiant, disons, affirme qu'il est toujours prêt à signer la confession de foi, qui dit que la Bible est la parole de Dieu, mais parce qu'il a lu tel ou tel livre ou les introductions de la tome en volume, quoi, considère qu'il y a des doublets dans la Genèse. Par exemple, Abraham n'a pas deux fois dit de Sarah que c'était sa femme, mais que c'était sa sœur, mais qu'en fait c'était une seule fois. Il admet cette théorie-là. Que faire devant une telle situation? Bon, il y a d'abord, me semble-t-il, conversation, admonestation, il y en a un, effort pour débrouiller la situation, pour l'instruire davantage. Mais s'il s'entête, c'est très, très possible, il s'entête, je crois personnellement qu'il peut y avoir mesures disciplinaires à son endroit. Parce que cette position, bien qu'il affirme signer toujours la confession de foi, est en fait en contradiction avec la confession de foi. Au regard des anciens responsables dans cette église romaine. C'est à eux, je dirais aussi, d'interpréter la confession de foi. Tout terme de confession de foi, comme l'écriture elle-même, est toujours sujet à interprétation, on sait bien, chacun lit. Donc, c'est aux anciens d'apprendre là leur responsabilité, me semble-t-il. Et s'ils estiment qu'il y a une entorse à la confession de foi, comme je crois qu'il y a, malgré les dénégations de ce brave petit jeune, il me semble qu'une action doit être prise qui me semblerait devoir être une interdiction de jouer un rôle actif qui lui permette d'enseigner de quelque façon. Il faut tenir compte de sa jeunesse, il faut essayer de garder le contact avec lui, mais par exemple qu'il ne soit pas responsable du groupe de jeunes, qu'il n'ait pas de rôle de moniteur d'école du dimanche. Même s'il est, même s'il est compétent, et même s'il ne parle pas de ça. Personnellement, je pense que ce serait une mesure sage et positive, qui ferait prendre conscience que c'est sérieux, et qui probablement pourrait l'amener à un choix plus profondément mûri et décisif, ou bien il redevient pleinement évangélique, ou bien il ne l'est plus du tout, et il se rend compte qu'il ne respecte pas la confession de foi, Et à ce moment-là, ils s'écartent. Voilà, donc, de nouveau, hein, suggestion que je fais, voilà, je vous avoue simplement comment je prendrais les choses devant une situation de ce genre. Troisième cas, celui qui serait peut-être le plus entre deux, très difficile, à propos duquel je ne sais pas s'il faudrait prendre une mesure ou non. Vous avez un membre de votre Église qui, après un passage d'été à Gagnères, par exemple, revient sans professer, très, très ouvertement, en tout cas, une doctrine de type pentecôtiste, néo-pentecôtiste, mais qui est accusé, au moins par certains dans l'Église, de fomenter une division, qui réunit un cercle de prière dans sa maison, et donc on a plus ou moins l'impression qu'il pourrait créer comme une espèce de clan avec un autre type de piété, d'intérêt, d'orientation que le reste de l'Église. Alors, faut-il intervenir disciplinairement ou non? En particulier s'il n'y a pas d'article très précis dans la confession de foi qui exclut ce qu'il peut dire en cette affaire. Alors, je pense que c'est tout spécialement délicat, que ce n'est pas sur le plan de la conformité doctrinale à la confession de foi que le sujet doit être pris, mais plutôt du respect de ce que Dieu a institué avec la responsabilité de gouvernement dans l'Église, par rapport au bon fonctionnement de la communauté, et même s'il ne comprend pas, par exemple. Mais cela à négocier avec un maximum de conversation, de communication entre lui et ceux et les anciens, donc essentiellement responsables du gouvernement de l'Église. Essayer de négocier une formule qu'on pourrait dire de compromis, que ces réunions de prière soient tantôt chez lui, tantôt chez un des anciens, et puis qu'il y ait toujours un ancien présent. Et s'il refuse ça, alors là, ça devient un cas de séparation, où certaines disciplines de sanctions pourraient s'exercer. Mais s'il accepte, ne pas réclamer plus que cela. Voilà de simples suggestions. Je crois que c'est quelques cas tout à fait banals, en fait, sont là pour nous montrer que nous avons besoin de toute façon de beaucoup de sagesse et de beaucoup d'amour. Alors que nous voulons appliquer les principes de la discipline. Voilà, merci pour votre attention malgré la digestion.
Voilà, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues.
Simplement de celui-là. Dans Timothée 1, donc verset 8, ce qu'a dit notre frère ici, il est dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Je pense que c'est ce qui ressort de cela, n'est-ce pas? Et faire un usage légitime de la loi. C'est peut-être l'acte de profession le plus difficile. Autant on est pris par les sentiments personnels que extérieurs et tout. Et ça devrait être facile pour moi. Pour les anciens, pas vraiment. Par la suite, dans cette église derrière, je pense que c'est
vous pouvez une avance, on va plus fort, parler plus fort. Oui.
Non, je disais que nous avons dans Timothée 1 au verset 8, mais nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et plus loin, il dit aussi, sachant bien que la loi n'est pas pour faite pour le juste, mais pour ce qui en dérive. Je veux dire, c'est bien ça. Ce qui a rejoint, la loi est juste, elle est légitime, mais c'est peut-être l'acte professionnel, si je peux m'exprimer ainsi, le plus difficile à appliquer, puisque tout est subjectif, n'est-ce pas? Entre nos propres sentiments aussi, par rapport à tel frère ou telle sœur, ou telle situation, et je crois vraiment que j'admire le frère, comment il a. Il n'a jamais affirmé quelque chose, et ça m'a fait du bien, je suis allé. Il a vraiment été toujours dans les nuances, tout cela, d'une façon très humaine, et ça me fait du bien parce qu'à un moment donné, je m'accusais moi aussi, j'étais bien content ce matin de voir que, il n'y a pas seulement le glaive uniquement, mais il y a cet équilibre de la balance qui est ressorti, je veux le remercier. Merci.
faire admonestation, à mi-chemin, entre exhortation et puis répréhension. Mais ça, c'est ma manière d'utiliser les termes. Aujourd'hui, je n'ai pas vérifié dans un dictionnaire fiable, comme en général le petit Robert, pas toujours, hein, aucun dictionnaire n'est parfait non plus. si c'est le sens admis.
J'ai un petit problème avec l'exclusion mineure. Un chrétien baptisé sur profession de sa foi, mais qui ne peut pas être membre de notre Église pour différentes raisons de divergence de conviction spirituelle, s'il vient dans l'église le dimanche matin, nous l'invitons à prendre la scène avec nous.
Oui, c'est ce que je fais aussi. Oui.
Alors, un chrétien de l'église, un membre de l'église, qui a commis une faute, lui interdirons de prendre la scène. Alors qu'au fond, il y a beaucoup plus de communion entre lui malgré sa faute. Mais ce que je veux dire, qu'avec l'autre, avec qu'il y a un éloignement du fait de convictions différentes.
Cette position n'était pas juste.
Bien, bon, je réponds.
Monsieur,
j'ai envie de dire quelque chose. Donc,
justement, à cette question, est-ce que cette exclusion mineure, si vous voulez, de la Sainte Cène, n'est pas plutôt une mesure pour amener le frère à la repentance? Mais si vraiment il s'est repenti sincèrement, excusez-moi, repenti sincèrement, il a montré par sa vie qu'il a changé, il a reconnu sa faute. Je pense qu'il n'y a pas lieu de l'exclure encore de la Sainte Cène. Sinon, c'est une punition.
Alors là, bien sûr, tout à fait d'accord.
S'il manque de la repentance, c'est que nous voulons l'amener à la repentance. Il voit quand même qu'ils ne vont pas accepter, nous ne vont pas être solidaires avec son attitude. C'est quand même plus grave que quelqu'un qui vient comme ça de notre église, dont nous ne connaissons pas la vie. Hein. Parce que là, nous sommes responsables, parce que nous connaissons cette personne.
C'est ça, pour moi, la différence entre les deux cas que vous avez évoqués, le cas de la personne du dehors qui n'est pas membre, que nous accueillons, et le cas de la personne sous discipline dans notre église que nous n'accueillons pas, me semble double. Un élément, c'est celui de notre responsabilité. En un sens, quand j'invite ceux du dehors par rapport à l'église locale qui sont là, présents, à participer à la Sainte Cène, je le fais à la faveur de la non-responsabilité où je me sens à son égard. Ils ne sont pas placés sous l'autorité spirituelle que je partage avec les autres anciens de l'Église, donc il prend la scène de sa propre responsabilité, en quelque sorte. Ce qui n'est pas le cas pour les membres de l'Église même. Donc, je suis. Et ça, c'est la première différence. Et la deuxième, alors, concerne la finalité pédagogique de la prise de la scène quand il s'agit donc d'une mise sous discipline, excommunication mineure au sein de l'Église. C'est vraiment avec le but de faire réfléchir la personne, de la secouer un bon coup pour qu'elle se rende compte que c'est sérieux. Et cela ne peut pas jouer avec quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas suivi par nous, qui a une différence de doctrine parce qu'on l'a enseigné comme ça sur la question du baptême, par exemple. C'est ces deux différences qui font que malgré ce que vous avez dit, je persiste à avoir ces deux positions.
Aussi la notion de sincérité, la personne est très bien vue de l'extérieur. Je le pense sincère, je ne le connais pas, je ne peux pas juger. Donc, à la faveur de sa sincérité supposée, je l'accueille. Comme le frère qui est dans une situation irrégulière, la fille, peut-être on demande de ne pas participer à la sincère, c'est parce qu'on sait qu'il n'a pas réglé sa main, donc il n'est pas sincère ni devant l'Église, ni devant Dieu en participant.
Oui, monsieur les acteurs.
Y a-t-il une différence de responsabilité en tant que responsable d'une église entre un membre de l'église ou quelqu'un qui vient régulièrement plus, mais qui n'est pas membre? Peut-être qu'on n'est pas très au clair.
Oui, à mes yeux, je dirais, oui, il y a une différence, ce qui ne veut pas dire que la responsabilité à l'égard du non-membre, mais qui assiste fidèlement, soit nulle. Je pense que nous avons aussi une responsabilité. De fait, il s'est placé quand même, peu ou prou sous notre autorité spirituelle. Mais quand même la responsabilité est moindre, parce qu'il n'y a pas eu cet engagement.
Comme ça, dit à ce sujet, notre frère a dit, certains milieux dont l'Évangile refusent la sacrée, ceux qui sont non membres, qui sont de passage, à moins qu'ils aient une lettre de recommandation et d'une assemblée qui a les mêmes pensées, qui a les mêmes. Ils se sentent eux responsables, certains se sentent responsables de ces milieux.
Je crois qu'on peut dire qu'historiquement, notre XXe siècle est nettement plus ouvert que les siècles précédents. Et que la position très largement majoritaire, sinon exclusive, dans le baptisme en tout cas, avant donc le XXe siècle, c'était le baptisme strict qui excluait donc les non-membres, en tout cas non baptisés sur confession de foi, de la scène. Mais je pense que cette position est devenue très minoritaire. Elle existe encore, mais elle est devenue très minoritaire dans le baptisme évangélique de nos jours.
Pour revenir à la question de membre ou non membre, parce que je ne parle pas, c'est quand même considérer une personne, un cas particulier, une personne qui vient régulièrement, peut-être depuis des mois ou depuis une année, deux années, qui n'est pas membre, et qui veut prendre aussi part à Saint-Seigne, carrément que nous ayons assez rapidement un entretien pur d'âme avec une telle personne pour connaître la personne, connaître la position, pourquoi elle veut devenir membre, pourquoi, parce qu'effectivement, sinon, il me semble pour moi, ce serait presque de ma part une négligence si je donnais la Saint-Seigne en pensant, il n'est pas encore membre. Je suis actuellement, de temps en temps, peut-être avec vous aussi, parfois un conflit au niveau de la Sainte-Seine, parce que nous n'avons pas, n'existe pas d'arbitre ici. Pour eux, c'est plus facile parfois. Mais moi, je voudrais d'un côté, quand il y a la Sainte-Seine, nous l'avons une fois par mois, je voudrais ni tomber dans un extrême de mettre chaque fois le marteau, pendant 10 minutes de exhorter au nom de Jésus, sinon c'est plus vraiment le repas de la joie, de la reconnaissance. Et puis parfois, d'autre côté, quand je vois certaines personnes qui sont venues occasionnellement, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne veux pas vite aller courir pour dire, écoutez, vous ne prenez pas la Sainte-Seine. Et je crois qu'il faut donner une parole claire de la part de Dieu, mais laisse la liberté. Disons, ça c'est ce que je pense, Seigneur, que toi-même tu éclaires les gens, mais trouver le bon milieu, le bon équilibre. Ce n'est pas toujours facile, mais d'arriver après être intérieurement frustré, d'ailleurs leur sentiment, tu n'étais pas tout à fait fidèle d'avoir bien parlé, bien averti, ou bien donné cette impression, cette repas de joie et de reconnaissance. Moi j'ai ce conflit parfois, étant donné que nous n'avons pas un système comme dans l'église d'arbitre, où on reçoit uniquement les gens par recommandation, etc. Là c'est plus facile. Mais au niveau de la Sainte-Seine, parfois, c'est pas très facile. Comment est-ce qu'il faudrait là agir?
Moi, j'éprouve cette tension aussi, hein, je ne la cache pas.
Mais est-ce que la Bible ne dit pas que chacun ses fonctions?
Oui, c'est aussi un élément qui pèse lourd dans le dossier, qui, je crois, moi, je me rappelle une discussion avec un darbiste, précisément, où c'est le texte que j'avançais pour expliquer notre ouverture, le fait que nous pouvons laisser à ceux qui nous rendent visite et qui professent la foi chrétienne, sous leur responsabilité, de prendre la scène.
Oui, dans ce sens, moi, il me semble que la personne, le chrétien qui vient d'une autre église que je ne connais pas, se retrouve dans la même situation que tous les chrétiens que je connais, entre guillemets. Dans la mesure où on a fait la différence talente entre les fautes connues, publiques, et ce qui est dans notre cœur. Je crois que c'est là aussi ce qui est, finalement. Je crois que c'est plutôt placer les chrétiens de façon effectivement explicite devant leurs propres responsabilités. C'est pas une fuite devant mes responsabilités. Je crois que nous sommes responsables devant ce que nous savons, mais que chaque chrétien est premièrement, même avant moi, avant à moi en tant que responsable, lui-même responsable devant Dieu. Je crois que c'est ça.
c'est la priorité, mais qui ne, n'efface pas, à mon avis, l'exercice d'une certaine responsabilité qui est limitée, comme tout, tout ce qui est confié aux hommes, des anciens de l'Église à l'égard des membres de leur troupeau, troupeau dont ils ont la garde. Moi, je n'emploie jamais, au moment de la scène, je peux vous le signaler, la formule que beaucoup emploient pour accueillir tous en disant « c'est pas la table de l'Église, c'est la table du Seigneur ». Beaucoup l'emploient, moi je m'en abstiens, parce qu'il me semble que c'est une logique très suspecte. Ce n'est pas parce que c'est la table du Seigneur que les responsables de l'Église n'ont pas à veiller sur l'administration. On pourrait aussi bien dire « c'est pas l'argent de l'Église, c'est l'argent du Seigneur », on ne va pas laisser n'importe qui ensuite s'en occuper, n'est-ce pas? Donc, je n'emploie pas cette formule, je crains qu'elle suggère une logique dérapante. Voilà.
Pour la dire de la même façon, pour le saint baptême. Je dis le saint baptême parce qu'on vient de parler de la sainte serre.
Vous nous entendez.
Non, mais je pense au contraire que le fait de dire que c'est la femme du Seigneur donne plus de sainteté et de foi et de responsabilité à celui qui participe à mes yeux. Donc c'est peut-être une question de langage pour vous, mais je trouve que si on m'invite à la table du Seigneur, là, à la table de l'Église, c'est peut-être moins important pour moi. Je me sens peut-être plus libre de parler de la table du Seigneur, là je me sens interpellé. C'est là, moi il m'est déjà arrivé d'utiliser ce terme.
Oui, il y avait de dire que c'est
la table du Seigneur.
C'est la table du Seigneur, oui, mais je ne le fais pas dans le sens de dire, alors... N'importe qui peut, sans que les autorités de l'Église aient la moindre responsabilité à cet égard, le moindre droit de regard.
Pour le baptême, on n'admettra pas non plus n'importe qui.
J'ai une question tout à fait différente. Ce matin, vous avez parlé qu'il y a des mesures disciplinaires par rapport à celui qui s'appelle frère et qui vit dans le péché. Et puis par rapport, bien sûr, au monde. Si quelqu'un vient du monde, vient à l'église, le dimanche matin, il doit être beaucoup plus large. Mais parfois, nous avons, disons, la difficulté de savoir quand commence la discipline. Quand quelqu'un du monde, de l'extérieur, qui n'est pas converti, qui vient le dimanche matin, encore une fois, il faut dire, il y a des églises, des systèmes d'église qui fonctionnent mieux, qui se prêtent mieux à la discipline, parce qu'ils ont des soirées d'évangélisation, d'origine plutôt anglo-saxon, le soir, dimanche soir, et là alors on invite les gens de l'extérieur. Or le dimanche matin est plus réservé aux chrétiens convertis, membres si vous voulez même. Mais dans nos milieux là, plusieurs églises je pense ont le même système, nous recevons le dimanche matin tout simplement aussi les gens, d'autres gens, et alors là parfois, quand est-ce qu'on doit commencer la discipline, quand est-ce qu'il faut tolérer, quand est-ce qu'il faut, voilà.
Tu parles de la discipline vestimentaire.
Je ne parle pas de la vestimentaire. Non, là, j'ai passé un peu dessus. Là, parce que quand vous évangélisez parmi les gens, vraiment les plus dans la périphérie de la société, vous ne regardez plus tellement sur ça. Sinon, si vous commencez par ça, il y a des choses beaucoup plus importantes. Oui. Mais je parle maintenant, non, pas ça, mais au niveau, un cas concret. Nous avons eu un cœur à notre village, nous avons une ZUP et une grande maison appelée Sonacolva, où il y a les gens célibataires, divorcés, qui habitent seuls, sans personne, qui ont plongé pour une grande partie dans la drogue ou l'alcool, sont dans le chômage, une grande partie, ou bien dans toutes sortes de vices sexuels. Cette maison commune, vraiment. Et puis maintenant, Dieu a permis, bon, nous avons prié pour cette maison et on a commencé à travailler. Et puis voilà, il y a maintenant des personnes qui viennent. Mais je ne vais pas vous décrire, c'est pas facile. Des gens qui viennent de très loin. Puis il y a une personne qui a un certain âge, puis jamais, bon, ils sont célibataires, 65 ans. Et puis qu'il y a une dame, et puis les deux, en quelque sorte, il y a une certaine sympathie, plus que ça. Avant qu'ils soient venus chez nous, ils ont vécu certaines choses. Et puis maintenant, n'est-ce pas, lui ne lit pas. La compréhension est très amoindrie. Elle, c'est tout à fait différent. Et dans ces cas-là, vous voyez,
jusqu'où on doit. Quand ils n'ont pas toute cette compréhension, elle a fait un pas vers Jésus. Je vois bien qu'il y a encore des choses à faire, n'est-ce pas, des choses à régler, tout ça. Et puis pas, alors, jusqu'où on doit les considérer tout simplement des gens de l'extérieur, laisser faire. Parce que nous, tant que chrétiens, nous ne pouvons pas accepter, par exemple, un mariage. Quelqu'un leur a dit, écoutez, vous ne pouvez pas, parce qu'il veut quitter cette maison pour avoir un appartement. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir un appartement seul, vous n'êtes pas marié. Et puis, là, donc, vous devez être marié. Et puis, une question à moi, hein, le mariage. Vous savez, hein, un tel mariage, question de maladie, tout ça, toutes sortes de choses, des éléments tout à fait difficiles. Alors, si je dis, écoutez, débrouillez-vous, hein, faites quelque part un mariage civil, j'ai une responsabilité. Je dirige. Si je dis rien, enfin, vous comprenez, ce n'est pas facile. Le plus facile serait qu'ils ne viennent pas chez nous. Et c'est ça pour moi, après, je ne sais pas si vous connaissez le même problème aussi chez vous, mais.
Et mon sentiment, c'est que quand nous voyons que le Seigneur est à l'œuvre, qu'il y a un progrès, il ne faut vraiment pas détruire ce qui est là. Il faut suivre le Seigneur et ne pas projeter trop vite nos idées sur ce qui est juste. Même si nous les tirons d'Écriture, c'est un travail si délicat que fait le Seigneur. Surtout, veiller à ne pas le gêner.
Et je me demande concrètement, est-ce que c'est le dimanche matin qui est l'endroit normal et idéal pour exercer la discipline dans l'église? Il me semblerait plutôt que ce serait un autre moment. Bon, bien sûr, elle est sous-jacente, mais elle n'était pas tellement évidente le dimanche matin, c'est plutôt un moment où on observe le matin.